Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante avec la petite bande habituelle, Églantine, Laetitia, Sébastien, Thierry. Bonjour les amis.
Bonjour Philippe.
Tiens Thierry, je vois que vous avez la patate ce matin. Ça tombe bien. Bonjour l'enchaînement à deux balles. Vous allez nous parler pommes de terre. Je crois que vous venez juste de terminer vos plantations.
Oui Philippe. Alors, bien des jardiniers qui nous écoutent les ont plantés, eux, plus tôt. Mais dans mon Morvan, au printemps, il fait franchement frisqué le matin.
Voilà.
Or, les pommes de terre détestent les terres froides. J'attends donc le début mai pour les planter, quand les lilas sont vraiment couverts de fleurs.
Donc vous les récoltez un peu plus tard que certains.
Oui. Mais mes patates auront peut-être plus de chances d'être saines, car une pomme de terre qui pousse trop tôt est sensible un peu au mildiou.
Exact. Ah, attention. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, Thierry, c'est les variétés. Vous avez planté quoi cette année?
J'ai d'abord fait la part belle au classique.
Oui.
La Mona Lisa.
Nickel.
Son petit goût de noisette. La Belle de Fontenay. Bon, pas très productive.
J'adore les noms.
Mais c'est délicieux.
Oui, délicieux.
C'est
très bien.
Puis,
vous pouvez y aller.
Bien sûr, il y a l'incontournable Charlotte.
Nickel.
Alors, cette année, je fais un test aussi avec ces nouvelles pommes de terre dont je vous ai déjà parlé, Tentation et Maiwen.
Qui
sont résistantes, paraît-il, aux maladies.
Je retiens que les pommes de terre n'ont jamais des prénoms de garçons. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, vous avez une technique de plantation des pommes de terre à recommander.
Alors, j'aime planter tout simplement dans une terre réchauffée et griffée pour qu'elle soit douce et tendre. Je ne mets pas d'engrais. Le fumier en granulé que j'ai mis sur la terre en hiver suffit amplement. Bon, quand mes plantes auront 25 cm, je vais les buter et leur permettre de faire de nouvelles racines.
Et ça veut dire quoi, buter?
Alors, buter, c'est pas les assassiner, Laetitia.
C'est pas buteur.
Ramener de la terre avec un piochon et de la douceur, de part et d'autre de la tige qui sort du sol. Ce butage va détruire les nouvelles jeunes mauvaises herbes et puis ça va attendrir à nouveau la terre. Cette année, j'ai quand même innové pour mettre mes patates dans le sol. Je ne me suis pas baissé, parce que je n'ai plus l'âge pour ça. J'ai donc utilisé le plantoir à pommes de terre de Fertinature.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ça ressemble un petit peu à un bazooka pour jardinier.
Oh là là, oui,
voilà. C'est, mais c'est affreux.
C'est un grand tube en métal vert dans lequel on laisse tomber une patate. Deux poignées, vous avez vu sur ma petite photo, permettent de maintenir fermement l'objet. Ce tube se termine en tête de fusée, qui pique sans effort dans le sol. On appuie sur une grosse gâchette et la tête pointue s'ouvre un peu comme un bec de shadow.
Et la patate tombe dans le trou.
Exactement.
Formidable. Pas d'effort, pas de mal de dos.
Et on avance très vite.
Dites-moi, on pourrait s'en servir de votre bazooka là pour planter autre chose?
Oui, je l'ai testé déjà pour les jeunes poireaux. Il semblerait que ça fonctionne très bien aussi pour les plants de choux et de salades vendus en petites mottes.
Ouais.
Et ce serait remarquable pour les oignons de tulipes.
Ça vaut combien votre truc là?
Une cinquantaine d'euros. On le trouve facilement dans les petites jardineries. Moi, je trouve que c'est un bon investissement quand on n'a plus guère envie de jardiner à genoux.
Et de se faire mal au dos.
Exactement.
Vous nous mettez toutes les infos sur ce bazooka à pommes de terre sur RTL.fr. Églantine, vous nous emmenez maintenant à la découverte d'un événement qui va ravir aussi bien les amateurs de plantes, pourquoi pas de pommes de terre, que d'objets anciens. Et c'est encore dans le sud de la France.
Oui, il faut croire que jardiniers et chineurs ont beaucoup de points communs. En tout cas, là, je vous emmène dans un endroit où Thierry et moi, on pourrait aller passer des heures et des heures ensemble.
Quand vous voulez.
C'est le truc idéal, en tout cas pour toute la famille, quels que soient les goûts de chacun. Il s'agit des floralies et brocantes de printemps de Rabastens. Et c'est ce dimanche.
Rabastens.
C'est donc aujourd'hui.
C'est dans le Tarn, non?
Oui, c'est ça.
Et alors, côté jardin, je vais y trouver mon bonheur.
Alors, Rabastens, c'est une petite commune située dans le nord-est de Toulouse. Et vous pourrez assister à un grand rassemblement de pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, paysagistes, jardiniers et autres spécialistes de la motoculture. Et il faut reconnaître que tout ce rassemblement participe grandement au succès de la sympathique brocante qui se tient aussi au même moment. Rendez-vous donc sur la petite promenade des Lys, c'est jusque 19h et c'est ce soir. Et puisqu'on chine tout en passant du temps côté jardin, eh bien ce matin je vous propose de voir ensemble comment rénover une chaise de jardin.
Bonne idée.
On parle d'une chaise métallique avec assise et dossier en bois. On en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros selon l'état.
Alors ça tombe bien parce que moi j'en ai chiné une il n'y a pas longtemps, d'ailleurs moins cher que ça. Gros poil dans la main, je l'ai laissé au fond du jardin, j'ai pas eu le temps de m'occuper.
Alors c'est très simple Sébastien.
Si vous le dites.
Mais oui, c'est pas si long. En général, la structure métallique elle est souvent bien rouillée et la peinture bien écaillée.
La première chose qu'il faut faire c'est démonter la chaise d'abord.
Évidemment, là on reconnaît la pro qui parle. On commence par démonter les lames en bois. Compte tenu de l'âge de la chaise achetée en brocante, souvent le dégrippant est nécessaire. Alors attention, c'est important de ne pas jeter tout de suite les les vis et les écrous.
Oui, églantines, déjà, il faut avoir réussi à les enlever.
Alors, c'est pour ça, moi, je vous donne un petit truc perso. Si vous avez du mal à les dévisser, si ça coince, un coup de chaleur, le sèche-cheveux, par exemple, et ça marche pas mal du tout.
D'accord.
Ensuite, une fois qu'on a tout démonté, on va s'occuper des lattes en bois. Il faut les décaper.
Oui.
Parfois, une brosse métallique suffit. Il n'y a pas besoin d'un décapant chimique. Mm-hmm. C'est ça, c'est un des avantages de ces meubles très anciens, c'est que la peinture, elle part assez vite, assez facilement.
Ouais.
Alors, on ponce, on protège avec un vitrificateur si on veut laisser la chaise dehors au jardin. Ça va lui permettre de résister à tout, aux pluies, aux taches.
Ouais.
Il vous reste donc la partie métallique.
Ouais.
Là, il faut la décaper. Avec un décapant en gel, c'est plus pratique, on n'en met pas partout.
Oh, la
mais non, c'est pas la galère. Ensuite, il faut poncer. Laetitia connaît tout le mode d'emploi avec une brosse métallique ou une laine d'acier. Et puis là, si vous avez envie, Sébastien, vous la repeignez. Mais vous n'êtes pas obligé de la repeindre.
Je ne vais pas le faire à ma place, non.
Mais avec plaisir. En tout cas, voilà, vous allez retrouver une chaise toute belle.
Mais vous n'avez pas oublié de quelque chose, de la remonter par hasard. C'est pour ça que vous nous avez demandé de garder les vis, les écrous à part.
Exactement. Et c'est surtout pour les changer parce qu'ils risquent d'être trop vieux, trop abîmés pour résister. Alors, ou bien vous pensez à mesurer précisément le diamètre des vis et des écrous, et ou alors vous les emmenez avec vous au magasin tout simplement pour acheter de neuf.
Ouais.
Et là, petit conseil, il faut en acheter en acier zingué pour éviter que ça ne rouille à nouveau dans le jardin. Et puis vous savez, souvent sur ces vieilles chaises, vous avez des embouts de caoutchouc au niveau des pieds.
En général, ils n'ont pas
vraiment survécu. Je pense que les vôtres sont un peu déchirés, Sébastien.
On
en retrouve sans problème dans le commerce. Mais là aussi, il faut penser à bien mesurer le diamètre du tube des pieds de la chaise. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je les ai jetés bêtement. Et je suis partie au magasin.
Après, c'est galère.
Je pense que ma chaise va rester au fond du jardin, moi.
Oh non!
Mais attends, si, je ne vous ai pas dit le meilleur. Hein. Si je compte juste les écrous neufs, le décapant en gel, une peinture et une laine d'acier, elle est au maximum. Vous en tirez pour une quinzaine d'euros.
Et 5 heures de boulot.
Moi, je ne dirais pas 5 heures.
Ça occupe.
Franchement.
Ça occupe. Allez, merci. En tout cas, on retient Floralie et Brocante de printemps à Rabastens. J'ai regardé, c'est entre Toulouse et Gaillac, autant dire une région où il y a pas mal de choses à faire. On va marquer une petite pause dans Maison Jardin Cuisine Brocante. Dans un instant, on va à Milan avec Laetitia. Et puis on poursuit, on achève même notre saga du petit pois avec Sébastien. Maison Jardin Cuisine Brocante, la deuxième partie ce dimanche avec Laetitia pour commencer. Vous nous emmenez du côté de l'Italie, du nord de l'Italie, une très belle ville, Milan. La Milan Design Week vient de s'achever. C'est un rendez-vous incontournable dans le monde du design.
C'est là où tout se passe. Pendant 6 jours, la ville de Milan est transformée en exposition géante du design. Il y a la Fiera, ça c'est le salon professionnel où sont présentées les nouveautés des grandes marques. Et puis après, la manifestation se poursuit dans toute la ville, les showrooms, les boutiques scénographient leurs espaces. Il y a des expos dans des palais et des apéros aussi. On croise à chaque coin de rue les designers les plus en vue. Bref, c'est the place to be et surtout l'endroit idéal pour découvrir tout ce qui va faire frémir nos intérieurs dans les prochains mois.
Voilà. Alors, pour cette édition 2018, que fallait-il retenir ?
Que l'on doit être astucieux et créatif, qu'il faut oser et se réveiller.
Ah.
Alors, astucieux et créatif, comme le studio de design italien Studio Nin. Ils ont créé du mobilier sur lequel on peut venir accrocher les célèbres briquettes de Lego. Alors, ce ne sont pas des meubles pour enfants, hein, mais par exemple, un élégant buffet bas sur lequel on va venir clipser les Lego, mais aussi, du coup, apporter de la couleur et des motifs à nos meubles.
C'est nous qui créons le
exactement,
en fait.
Ça s'appelle Studa Studio Nin.
Ça, c'est bien.
C'est drôle.
Tout à l'heure, vous avez dit astucieux, créatif, mais surtout osé.
Celle qui a vraiment osé, là, c'est la designer India Madavi.
Ah, très connue. Super ce qu'elle fait.
Elle propose des salles de bain hautes en couleurs avec la marque Bisazza Bagno. Depuis de nombreuses années, c'est le diktat du blanc dans nos salles de bain pour les baignoires, les toilettes, les lavabos. On a vu apparaître un peu de noir aussi, mais pas vraiment de couleur.
Il y a eu une époque avec des baignoires bleues, des baignoires violettes.
Ah oui, c'est vrai, j'en ai eu dans une maison. Maintenant, vous allez vous régaler avec des couleurs gourmandes comme myrtille ou fraise ou pistache. India raconte qu'elle a voulu sortir de l'époque hygiéniste et du look clinique de nos salles de bain. Donc les formes sont arrondies, plus douces, la baignoire s'appelle Plouf, le lavabo Splatch et le miroir, sensationnel.
C'est pas mal.
Mais c'est joli. C'est
Les murs sont recouverts d'une mosaïque rayée.
Je trouve ça vraiment canon votre truc. Quoi d'autre comme coup de cœur ?
Le coup de cœur c'est pour Flo, c'est ses nouveaux luminaires qui s'appellent Arrangement.
Oui.
Ils sont signés Michael Anastasiade. Ce sont des éléments géométriques de 8 formes et tailles différentes en aluminium en fait qui vont s'assembler pour créer une sculpture lumineuse. En fait, pour bien comprendre, c'est comme un bijou géant, un collier ou un bracelet composé de différents anneaux qui s'emboîtent, qui sont géants et qui sont suspendus au plafond, flottent dans la pièce et ça éclaire, oui. Après, c'est une ambiance.
La grande mode des luminaires aujourd'hui, un sur deux,
c'est très joli.
Ça, j'adore.
Moi, j'aime bien.
Je le veux.
Moi,
c'est pas possible, c'est pas possible.
Pour la modique somme de.
On
ne fait que rêver. Voilà. Merci pour Milano. Grazie, Laetitia. Alors, on va terminer notre saga du week-end des légumineuses avec Sébastien.
Tout vert.
Hier, c'était les petits pois. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi ?
Eh ben, c'est une salade. Voilà.
Oh, une salade verte.
Ah non, madame. Non, madame. Nous allons faire une salade composée. C'est dimanche, tranquille. On va faire une espèce de petit plat unique et qu'on va imaginer naturellement autour des petites bricoles de saison. Comme
alors,
on
c'est
dit.
Quoi les petites bricoles de saison ?
Eh ben, écoutez, c'est comme ça que j'ai fait la semaine dernière au marché. C'est très simple. J'ai vu mes toutes premières fèvettes chez mon maraîcher bio.
Petites fèves.
Petites fèves, toutes petites. Et chez le poissonnier, il y avait de tout petits encornés tout pleins. Donc des fèves et des encornés dans un esprit printanier.
Les petits encornés, j'adore. Oui. J'en prépare pas tous les 5 minutes. Comment vous faites ? Vous avez des conseils ?
C'est un coup de main. Voilà, il faut tirer tout doucement sur la tête de l'encorné. Quand on dit la tête, c'est son corps en l'occurrence. Retirer ensuite la petite plume qui est dedans. Ouais. C'est ce petit cartilage là, un peu transparent. Ouais. Ensuite, ben, les cornets d'encorné, les têtes. Hein, vous les rincez soigneusement, vous rincez l'intérieur. Non, ça va. Si vous trouvez qu'ils sont un peu épais au niveau de la peau, vous savez, cette peau rosâtre là, vous pouvez la retirer, c'est très facile, mais sinon c'est pas la peine.
Et puis les tentacules un peu gluants.
Alors
là,
les tentacules, vous les gardez, gardez, rincez, vous allez voir. Le corps de l'encorné, vous le taillez en 2-3 gros morceaux dans la hauteur, comme ça vous allez pouvoir les gober. Et ces tentacules qui sont vraiment délicieux, délicieux. L'ensemble, vous allez le passer à la poêle à feu très très vif, Thierry. Ça va très vite. Une goutte d'huile d'olive, une petite gousse d'ail écrasée du plat de la main, une pincée de sel, feu vif pendant 5 minutes maximum, Thierry, le temps qu'il n'y ait plus de liquide dans la poêle. Ensuite, ces petits morceaux de calamar, là, vous les passez dans un saladier, vous rectifiez l'assaisonnement, comme on dit, un petit peu de fleur de sel, un peu de piment d'Espelette, pas trop. Une très belle huile d'olive, vous mélangez et vous laissez tout doucement tiédir.
Sébastien, juste question de vocabulaire. Encornet, chipiron, tout ça, c'est pareil.
Pareil, même famille, même chose, c'est des vocabulaires en fonction des régions, en fonction du calibre également.
Ok, on continue la préparation.
Alors, les petites, toutes petites fèvettes, 5-7 minutes maximum à l'eau bouillante bien salée, vous les égouttez sous un robinet d'eau bien glacée et là, vous allez délicatement, éventuellement, retirer leur toute petite membrane.
Une par une
bien sûr.
Vous commencez le lundi.
Moi, je retiens qu'il a dit éventuellement.
Si c'est des toutes petites fèvettes, c'est pas la peine. Et ça, donc, vos petites fèvettes, vous les mettez dans le saladier. Et là, c'est terminé, puisqu'il faut juste tailler en rondelles 4 cébettes. Vous savez, je vous en ai parlé récemment, les oignons longs, là, ou alors les petites lamelles d'oignons nouveaux, classiques, et quelques rondelles également du côté de la tige, du côté qui est très tendre, qui est vert clair. Mm-hmm. Tout ça mélangé vigoureusement dans le saladier. Un bon coup d'huile d'olive. Sel, piment
d'Espelette.
Voilà, il a compris. Quelques zestes de citron jaune là-dedans. Et ça se déguste de suite, un tout petit peu tiède. C'est léger, c'est digeste. Vous avez vu, c'est quand même pas compliqué. Il y a 3 ingrédients, c'est rien du tout. Par contre, il faut vraiment que ce soit des ingrédients canon pour que votre recette soit réussi.
Encornet et fèvette.
Exactement.
Merci Sébastien.
On a faim, je suis désolé.
Voilà, c'était un peu fait pour. Merci Sébastien, merci à tous les quatre.
Merci à vous,
Philippe. À bientôt.
Salut.